Bonjour et bienvenue dans Les Souris ne mordent pas, l'émission qui vous parle de nouvelles technologies en CFM. Et cette semaine, nous allons parler de la high-tech dans les voitures. Nous allons voir un peu l'historique de l'arrivée des nouvelles technologies dans les voitures. Et on verra aussi comment rester connecté en vacances, parce que par ce temps grisâtre, les vacances approchent, le soleil n'est pas loin. Donc on va prendre un petit peu de vacances et voir ce qu'il faut prévoir avant de partir en vacances, que ce soit si vous allez sur les pistes de ski ou au bord de la mer. Mais comme chaque émission, on va commencer par l'actualité, et l'actualité la semaine dernière qui a été assez chargée. On consacrera une grosse partie de cette actualité, pardon, à l'affaire Mega Upload et de la loi SOPA et des Anonymous, hein. Bon, vous en avez sûrement entendu parler. Et on verra aussi ce qui s'est passé du côté de Kodak, de la CNIL, de Google+. On reviendra un peu sur Free Mobile pour voir l'avancement un petit peu de ce nouveau opérateur mobile. Et on parlera de Bercy, de tablettes, de fibre optique. Voilà, tout ça après une petite musique en CFM.
It's there inside. All I do is hide. I wish that it would just go away. What would you do if you knew? What would you do? All the pain I thought I knew, all the thoughts lead back to you, back to what was never said, back and forth inside my head.
C'était Avril Lavigne dans Les Souris ne mordent pas, l'émission qui vous parle de nouvelles technologies en CFM. Et on débute tout de suite par l'actualité de la semaine dernière et par le gros dossier de cette actualité qui sont les lois SOPA, PIPA et la fermeture de Mega Upload. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Deux choses qui peuvent avoir un rapport mais qui n'ont pas été prouvées. C'est tout d'abord l'étude aux États-Unis de la loi SOPA et PIPA. Alors, pour les personnes qui parlent anglais, SOPA, c'est Stop Online Privacy Act, et PIPA, c'est Protect IP Act. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est en fait deux lois qui touchent aux libertés individuelles sur Internet pour contrôler, soi-disant, le terrorisme et les pirates et autres vols de contenu sur Internet. C'est un peu Adopi, mais version américaine, et comme les Américains font tout en plus fort, c'est Adopi en pire. Donc la semaine dernière, le gouvernement américain a mis à l'étude ces deux lois auprès de son parlement, Et d'ailleurs, dès jeudi, on a eu de la part de pas mal de gros sites dans le monde un blackout contre la loi SOPA. Hein, dont on a sûrement entendu, vous avez sûrement entendu parler de Wikipédia qui a fermé pendant 24 heures pour protester donc contre cette loi. D'autres gros sites aussi ont fermé leurs portes. Voilà, juste pour protester. Alors, est-ce que c'est un rapport ou pas? Mais en tout cas, dès le lendemain, la justice américaine s'en est pris à Mega Upload. Alors, pour ceux qui connaissent pas, Mega Upload, c'est en fait un énorme site internet qui permet d'héberger des fichiers et des vidéos, qu'ils soient légales ou pas. Hein, on rappelle quand même que on a beau incriminer Mega Upload, Mega Upload ou Mega Video, hein, c'est les deux mêmes sites, hébergent quand même beaucoup de fichiers légaux. Voilà, c'est aussi une solution pour pouvoir héberger ces fichiers. Si vous avez des gros fichiers chez vous, plutôt que de les envoyer par mail, parce que ça passe pas forcément, vous pouvez utiliser ces plateformes, voilà, qui les hébergent. Le FBI, donc et le département de la justice, ont comme ça, un peu sans raison, saisi les 18 noms de domaine qui appartiennent à Mega Upload et mis en prison les 4 hommes clés de la société. Voilà, donc ça traînait depuis pas mal de temps cette histoire, hein, Mega Upload était surveillé, et c'est arrivé comme ça, du jour au lendemain. C'est quand même un gros problème, puisque effectivement Mega Upload a peut-être des choses à se reprocher, mais c'est quand même de très très gros sites qui ont été fermés du jour au lendemain. Qu'on soit pour ou contre Mega Upload, la question se pose de comment la justice américaine peut fermer comme ça du jour au lendemain un site internet sur une simple une décision de justice. Alors, c'est vrai que ça a beaucoup fait parler la toile, hein, cette histoire de fermeture. Et d'ailleurs, on a vu une très grosse réaction. Alors, certains parlent du début d'une cyberguerre, hein, puisque on a eu une réaction dès le soir même, d'ailleurs, des Anonymous. Alors, qu'est-ce que les Anonymous ? Pour faire court, les Anonymous, c'est en fait un collectif de personnes qui entend s'attaquer à toutes les structures qui iraient contre les libertés individuelles sur Internet. Et donc là, on était un peu dans le cas. Donc on a eu une très grosse attaque dès le jeudi soir de la part des Anonymous qui se sont attaqués à de gros sites Internet comme le site du ministère de la Justice aux États-Unis, mais aussi le site Internet d'Universal Music, le site d'Adopi en France et même le site de l'Élysée, qui a été attaqué et qui a dû fermer ses portes. Voilà. Donc c'était pas méchant, hein. Je vous rassure, c'était une attaque de protestation qui fait fermer les portes du site internet pendant quelques heures pour montrer aussi qu'il faut libérer internet et il faut arrêter de s'en prendre à toutes les libertés individuelles sur internet. Alors voilà, c'est le gros dossier de la semaine. Ça a causé beaucoup de réactions. Alors en France, on a eu Nicolas Sarkozy qui a applaudi la fermeture de Mega Upload et qui en a profité pour ramener sur le tapis la loi Adopi 3. Ça revient sur le tapis, c'est pas oublié. Donc pour rappel, hein, Adopi 3, bah c'est Adopi en un peu plus dur, un peu plus sévère. Nous avons eu des députés UMP aussi qui ont applaudi la fermeture de Mega Upload et qui ont même déclaré que c'était un peu grâce à Nicolas Sarkozy, puisqu'il faut bien il faut bien s'attirer un peu la gloire de cette fermeture, même si pour moi ce n'est pas vraiment une gloire. On a eu des réactions de tous les partis politiques qui sont en campagne actuellement, hein. On a eu François Hollande aussi qui était plus mitigé, qui savait pas trop quoi dire, voilà, qui a préféré dire que c'était inadmissible mais sans rien proposer d'autre. Il a ramené aussi sur le projet donc son tapis de redevance globale, hein, qui le but de faire payer un petit peu à tout le monde, quelque chose qu'on va redonner après. On a eu le Front de Gauche aussi qui a proposé un service de téléchargement public. Donc le but est de réunir sur une plateforme publique tous les auteurs et de proposer le téléchargement. Donc voilà, c'était la grosse actualité de la semaine dernière. Je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Parce que c'est vrai que si la justice américaine se l'est permis une fois, ils se le repermettront pour d'autres sites internet. Et rappelons quand même que ce sont des plateformes qui hébergent aussi beaucoup de fichiers légaux et que il faut peut-être mieux s'en prendre aux personnes qui mettent des fichiers légaux sur ces plateformes plutôt que s'en prendre aux plateformes. Hein. C'est toujours pareil quand on fait un excès de vitesse, On s'en prend pas forcément au constructeur de la voiture, mais plus au conducteur qui est dedans. En tout cas, la fermeture de Mega Upload et l'attaque des Anonymous a eu un gros point positif, puisque le Parlement américain a repoussé le vote des lois SOPA et PIPA. Puisqu'effectivement, après le bouleversement médiatique qu'il y a eu autour de ça, les parlementaires américains ont eu peur pour leur réputation en faisant passer ces lois de suite. Donc du coup, c'est reporté à plus tard. Voilà pour un peu l'historique de ce qui s'est passé autour de la SOPA, de la PIPA et de Mega Upload. Et on continue l'actualité après une musique. À tout de suite en CFM. C'était Émilie Simon dans Les Souris ne mordent pas en CFM. Et donc, on continue l'actualité après cette histoire de Mega Upload. On va voir aussi ce qui s'est passé, parce qu'il s'est passé quand même bien d'autres choses la semaine dernière. Et on parle souvent dans cette émission des sociétés qui réussissent dans le numérique. Et bien aujourd'hui, on va parler d'une société qui a raté le virage du numérique. Et on va parler de Kodak. Kodak qui s'est déclaré en faillite la semaine dernière. Alors c'est quand même un sacré choc, puisque Kodak, vous connaissez tous Kodak, hein, vous avez tous eu une pellicule photo Kodak dans les mains un jour, peut-être pas les plus jeunes, mais vous en avez tous au moins vu. Et c'est vrai que Kodak était quand même une grande société de la photographie, et ils ont vraiment loupé le virage du numérique, et du coup se sont déclarés en faillite. Alors je vous rassure, hein, Kodak n'a pas fermé, ils sont rentrés dans une procédure aux États-Unis, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais c'est l'équivalent d'un redressement judiciaire chez nous. Et donc voilà, on verra ce que ça donne, mais c'est dommage pour Kodak, puisque effectivement les pellicules argentiques Kodak, en tout cas, valaient tout l'or du monde aujourd'hui, où on a du mal à en trouver. Autre actualité cette semaine, on va parler de la CNIL qui, pour la première fois, s'en prend au spam par SMS. Alors c'est vrai que le spam par SMS va peut-être devenir un futur fléau du spam, parce que on reçoit de plus en plus de SMS publicitaires non désirés. Et pour la première fois, donc, la CNIL a infligé une amende de 20 000 euros à une société qui, en fait, achetait des fichiers de données personnelles pour diffuser des milliers de spams, donc par SMS. Alors c'est une grande première, on espère que la CNIL ira plus loin en continuant de s'attaquer à ces sociétés. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, la CNIL s'en prenait aux sociétés qui collectaient les données personnelles sans autorisation, mais s'en était jamais pris à une société qui utilisait ces données pour diffuser des messages publicitaires. Donc voilà, saluons la CNIL pour cette action, et espérons qu'il continue. On continue l'actualité avec Google+. Alors c'est vrai ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Google+. Pour rappel, un Google+, c'est le réseau social de Google qui est né l'année dernière, en fin d'année. Et donc Google+ a déclaré avoir atteint 90 millions de membres en 8 mois d'ouverture, puisque ça fait 8 mois que Google+ est ouvert. Donc c'est quand même un très bon chiffre, même s'ils en sont très loin de Twitter et de Facebook. Ils ont quand même eu une très grosse vague d'inscriptions sur leurs 8 premiers mois, et voilà, on espère qu'ils vont continuer. C'est vrai que Google avait un peu échoué quand ils avaient lancé Google Buzz, qui était leur premier test de réseau social, mais là, avec Google+, ils tiennent vraiment le bon créneau, voilà. Et comme quoi, hein, 90 millions de membres, ça montre qu'il y a de la place sur les réseaux sociaux et qu'on peut continuer. On va reparler un petit peu de Free Mobile maintenant, parce que on en a parlé la semaine dernière, c'était le lancement de Free Mobile, et donc on va voir, hein. Voilà, après une semaine de lancement, enfin un peu plus d'une semaine de lancement, où ils en sont. Alors Free Mobile fait toujours parler de lui. C'est vrai que les autres opérateurs ont essayé plein de choses. Ils ont accusé Free Mobile de couper leurs antennes pour utiliser le réseau d'Orange. Ils ont accusé Free Mobile aussi de cacher des tarifs à leurs clients, phénoménal. Voilà, donc ils ont accusé pas mal de mots Free Mobile, qui a tout démenti, et Free Mobile continue. Alors Bouygues Telecom a annoncé la semaine dernière avoir perdu 25 000 clients. Voilà, c'est le premier des opérateurs à annoncer un chiffre là-dessus. Et la structure qui s'occupe de la portabilité des numéros a annoncé traiter 40 000 demandes par jour. Voilà, donc c'est à peu près des chiffres des mouvements dans le téléphone mobile en ce moment. Alors, pour l'actualité, Free Mobile a réajusté ses tarifs, voilà, la semaine dernière, 15 jours après leur lancement. Alors, ils n'ont pas réajusté les deux abonnements qu'ils ont lancés. Mais par contre, ils ont réajusté les autres frais, notamment les appels depuis l'étranger, puisqu'effectivement, Free Mobile était assez décrié pour ces tarifs qui vous facturaient si vous appeliez depuis l'étranger ou si vous utilisiez Internet sur votre mobile depuis l'étranger. Alors de toute façon, hein, je vous rassure, ces tarifs sont exorbitants chez tous les opérateurs aujourd'hui. C'est vrai qu'il vaut mieux pas utiliser son téléphone mobile depuis l'étranger. Pour information, voilà, si vous souhaitez voyager, Free a réduit le tarif de ses données depuis le Royaume-Uni, puisqu'aujourd'hui vous ne payerez plus que 5 euros par mégaoctet utilisé au lieu de 32. Et ils ont baissé aussi le tarif de leurs données depuis le Qatar. Donc voilà, si vous souhaitez partir au Qatar, sachez que vous payerez que 0,013 euros le kilo-octet utilisé. Voilà. Et pareil à Saint-Pierre et Miquelon. Pour information, ils ont également revu à la hausse, cette fois-ci, les appels émis depuis la Slovaquie. Voilà. Donc si vous souhaitez aller en Slovaquie, attention. Et puis il y avait aussi une hausse pour la Corée du Sud, je crois. Donc voilà, à surveiller comme tout opérateur. Si vous partez à l'étranger, faites très attention à votre mobile parce que c'est dans ces moments-là que la facture peut exploser très rapidement. On va continuer en parlant de Free Mobile et de Bercy. Voilà, puisque en fin de semaine dernière, Bercy s'est fendu d'un petit communiqué de presse pour rappeler que cet opérateur mobile avait obtenu le label tarif social mobile et que Free ne l'avait pas. Donc c'est assez hallucinant de voir ça. Pour rappel, le tarif social mobile est pour les bénéficiaires du RSA qui peuvent bénéficier d'un tarif aux alentours des 10 euros pour les 40 minutes d'appel et 40 SMS. Voilà, donc si jamais vous êtes bénéficiaire du RSA, vous pouvez, chez cet opérateur, avoir cette offre-là. Ou alors, vous pouvez avoir une offre à 2 euros pour 60 minutes d'appel et 60 SMS chez Free. Mais bon, vous n'aurez pas le label tarif social. Alors, pour rappel, hein, les 7 opérateurs qui ont le label tarif social sont Orange, SFR, Bouygues, Omea Telecom, Transatel et Coriolis Telecom, Auchan, Energie Mobile et Colline Europe. On en appelle à Bercy. Si jamais Bercy écoute CFM Radio, vous pouvez inclure Free dans les tarifs sociaux, hein, puisqu'ils sont bien moins chers que les offres qui existent jusqu'à maintenant. Autre information de la semaine dernière, pour la première fois, les tablettes ont doublé les PC en France. Voilà, en 2011, les Français ont acheté plus de tablettes tactiles que d'ordinateurs de bureau. Voilà, c'était une petite info comme ça en passant. Rappelons que la tablette la plus vendue, c'est bien sûr l'iPad d'Apple, que juste derrière, on retrouve Samsung qui le suit de près. Et que, voilà. Alors, c'est pas la mort du PC, hein, puisque le PC se vend encore très bien. Mais voilà, on a vendu 1,45 million de tablettes en France l'an dernier. Petite info comme ça, en passant. On continue l'actualité de cette semaine avec de la fibre optique. Et on va reparler de Bercy, qui a donné 50 millions d'euros à 5 départements français pour qu'ils installent la fibre optique. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque effectivement le gouvernement va encourager le déploiement de la fibre optique, donc du très haut débit, qui va avec. Alors voilà, donc 5 départements pourront se lancer dans la fibre optique et tester ce déploiement grâce à l'aide de Bercy. Donc pour les habitants de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme et de la Manche, vous devriez voir des tranchées chez vous dans pas longtemps pour installer la fibre optique, et en espérant que ça puisse se répandre un peu partout en France, parce que ce serait vraiment quand même une grande avancée. On termine l'actualité de cette semaine par une petite information. On a appris la semaine dernière que les accidents de piétons qui écoutaient de la musique ont triplé en 6 ans. Donc voilà, alors c'est pas forcément une information qui a à voir avec les nouvelles technologies, quoique hein, la multiplication des baladeurs aujourd'hui perturbe les piétons. Donc si vous écoutez la musique en marchant, attention, parce que vous n'entendez pas les voitures, il faut faire encore plus attention, je dirais, en traversant la route, parce que vous risquez d'être distrait par votre baladeur. Peut-être qu'un jour, l'écoute de musique dans la rue sera peut-être interdite par le code de la route, parce que ce serait apparemment dangereux. Voilà, on se fait une petite pause et on se retrouve tout de suite en CFM pour parler de la high-tech dans les voitures. À tout de suite. My chair. C'était Dido dans les souris ne mordent pas en CFM. Et nous commençons par notre premier dossier de la semaine. On va refaire un peu un historique de la high-tech dans les voitures. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à utiliser des produits high-tech sans même s'en rendre compte. Mais il faut savoir que ces produits ont une histoire et qu'ils sont arrivés un jour pour une bonne raison. Donc on va essayer de voir ça un peu et on va voir... Que l'high-tech dans les voitures, ça remonte pas à hier. Alors la première date de high-tech dans les voitures remonte en 1967 avec la première automobile produite en série à injection électronique, voilà qui avait été créée par Chrysler dès 58. On va ensuite partir en 1971 avec Chrysler qui lance sur l'Impérial l'ABS géré électroniquement. La Mercedes Classe S sera le premier modèle européen à proposer cet ABS en option 7 ans plus tard. Si on regarde un peu toujours du côté de la high-tech, on va trouver l'Aston Martin Lagonda qui, en 1976, lance le premier tableau de bord digital qui utilisait déjà à l'époque les LED qu'on commence à voir aujourd'hui un peu partout. En France, il faudra attendre 83. Avec la Renault 11 électronique qui portait bien son nom, d'ailleurs puisque c'était la première voiture à emporter de l'électronique embarquée. Ensuite, on va faire un grand bond puisqu'on va partir en 95 avec la première option GPS et la première option de navigation intégrée à une voiture dans la Oldsmobile. D'autres systèmes de navigation étaient à l'étude depuis une dizaine d'années. Donc voilà, c'était les premières options de GPS. Voilà, ensuite, on va partir en 97 avec la Toyota Celsior qui fut la première voiture équipée d'un régulateur de vitesse qui s'adaptait en fonction de la distance de sécurité. Voilà, c'était le premier régulateur de vitesse à agir tout seul sur le frein. Donc voilà, aujourd'hui, on trouve ça dans toutes les voitures. Mais voilà, c'était en 97 qu'on a vu la première arrivée. Après, ça s'accélère, hein, puisque plus on approche des années 2000 et plus la high-tech arrive. en 99. Donc on voit la Mercedes classe S qui inaugure le système d'entrée et de démarrage sans clé. Voilà, le premier système s'appelait Keyless Go. C'est donc la première voiture qu'on pouvait démarrer sans clé. Voiture qui aujourd'hui se voit de plus en plus. Et on en parlera rapidement tout à l'heure puisqu'il y a des petits malins qui trouvent même le moyen de pirater ces clés pour démarrer les voitures sans clé. Voilà. En 2002, donc, on a vu le premier système de vision de nuit arriver sur une Lexus. Et ensuite, on a eu BMW en 2008 et Mercedes en 2009 qui ont ajouté à ce système la détection de piétons, voilà, qui permet même dans des conditions difficiles de pouvoir voir comme en plein jour et détecter si un piéton arrive. En 2003, on a vu arriver la Toyota Prius qui se garait toute seule. Vous savez, ces aides automatiques au parking. Donc, c'est arrivé en 2003. En 2007, on a Volkswagen qui a vulgarisé ce système sur le Touran, voilà, avec les caméras de recul et autres. Ensuite, on part en 2011 et on va parler de Google qui reçoit l'autorisation de faire circuler ses Google Cars de manière totalement autonome. Alors, on en a déjà parlé dans les souris ne mordent pas. On a vu qu'effectivement Google réussissait à faire rouler ses voitures sans chauffeur. Hein, c'est les premières voitures qu'on voit vraiment circuler seules sur route sans chauffeur. Hein, parce qu'avant on avait eu beaucoup de tests de ces voitures qui roulaient sur circuit, mais là c'est vraiment une grande première. Et donc puisqu'on a parlé de 2011, on va parler de 2012 et de l'Audi A8 qui est capable de descendre seul dans un parking souterrain et de trouver une place. Et ensuite d'en sortir en fait quand vous la sifflez depuis votre téléphone portable. Donc pour les moins jeunes, hein, vous vous souvenez sûrement de K2000. Et ben comme quoi on s'en approche, hein, aujourd'hui. Vous laissez votre voiture devant chez vous et elle est capable d'aller se garer toute seule et d'en remonter quand vous l'appelez avec votre téléphone. Où va s'arrêter le progrès, ça c'est c'est une autre histoire. Alors c'est vrai que la high-tech dans les voitures, comme vous le voyez, a pas mal d'historique. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Alors est-ce que c'est bien ou pas? Ça, c'est une grande question. Mais c'est vrai que la high-tech pose quand même pas mal de problèmes puisqu'aujourd'hui, les mécaniciens sont obligés de s'équiper avec beaucoup de matériel cher pour pouvoir dépanner ces voitures. Et on a quand même aujourd'hui énormément de pannes qui ne sont dues qu'à l'électronique, hein, parce qu'effectivement, un ordinateur... Bah, ça bug. Et donc, du coup, bah, un ordinateur dans une voiture, ça bug pareil. Donc, voilà. En espérant qu'on n'ait pas trop de problèmes avec l'informatique dans les voitures. Parce que autant un ordinateur chez vous qui tombe en panne, c'est pas grave. Autant une voiture qui roule toute seule qui tombe en panne, on se demande ce que ça peut faire. Donc, voilà. C'était la high-tech dans les voitures. Et on verra dans les souris ne mordent pas, dans les prochaines années, si on est encore là. L'évolution de cette technologie. On s'écoute une musique tout de suite en CFM et on revient après, on va parler de soleil et de vacances. À tout de suite.
Panique comme une sonnée, t'allonger le mur du côté et te voici debout sur les pissenlits. Tu vois jouer mes enfants et je les entends qui crient maman. Il y a un monsieur qui est bizarre, à côté de la balançoire. Viens lui parler, nous on comprend pas son histoire. Et me voici près de toi, je suis ébahie que tu sois là. Tu n'as pas changé de bras. Ce qui est différent, c'est que t'es sur mon terrain. Ce qui est différent, c'est que ma main ne vit plus dans ta main. Tu n'as pas changé du tout. À part qu'il y a mes enfants qui jouent autour de toi, autour de nous. Y a quelque chose qui cloche là-dessous. T'as commencé à parler, j'ai commencé à pleurer. Puis les enfants, ils se sont mis à pas t'aimer. Maman, c'est qui ce monsieur qui fout des larmes dans tes yeux? Je leur explique à demi que t'es disons un ami. Ça leur suffit, ils se réfugient dans la maison. J'ai fait exprès, j'ai pas dit ni d'où tu viens ni ton prénom. Je me sens comme prise en otage. Je me sens coupable d'avoir les deux yeux qui nagent. Je me sens coupable de ne pas te défendre au passage. je me sens comme pas très correct face au visage dans la fenêtre de mes enfants qui font la tête. Y a quelque chose qui cloche, mais je reste à écouter tes versions de notre fin de passion. Et j'ai le cœur qui s'empiffre d'émotion. Je suis affamée comme un lion, j'ai rien qu'envie de mordre à fond. Dedans ta bouche en mouvement qui me dit tout simplement les mots qui touchent, qui font mouche comme avant. Je suis nostalgique à mourir, je pleure des larmes de désir. Tu n'as pas changé d'une miette. Ce qui est différent, c'est les enfants qui nous guettent. Ce qui est différent, c'est que ma vie, moi, ben je l'ai refaite. Les pissenlits vont flétrir, leurs cheveux jaunes ne vont pas lire, devenir poussière et puis partir. Y a quelque chose qui est moche à mourir. Ça y est, j'entends les gamins me dire « Maman, on a faim ». Je regarde ma montre, il est déjà midi et 20. Ça fait 2 heures qu'on est là, 2 heures que tu me tends les bras. Dans ma petite cervelle, je suis déjà tout infidèle. Ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie si belle. Je m'entends te dire « Désolée, y a les enfants qui m'appellent ». Je monte sur mon balcon. Quand je me retourne, t'as les yeux comme des rayons. Tu fais demi-tour et soudain je suis prise de frissons. Tu longes le mur du côté et ta voiture, eh ben je l'entends démarrer. Et au lieu de te retenir, je prends une casserole, je mets de l'eau à bouillir. Il est midi 44, les gamins mangent des pâtes. Moi je suis dehors, à genoux sur le gazon. Un pissenlit dans les mains qui a la marque de ton talon. J'avais fait ça il y a 10 ans, revenir me voir en coup de vent, quand mon plus vieux, il était encore au biberon. N'as-tu pas vu que son frère, il a les yeux comme des rayons. 9 ans et quelques poussières, et ta fossette sur le menton.
C'était Linda Lemay dans Les Souris ne mordent pas en CFM, et on va entamer donc notre deuxième dossier de la semaine. Et par ces temps grisâtres, on va parler de vacances, parce que c'est bientôt les vacances. Et pour ceux qui partiront à la plage ou ceux qui partiront en montagne, l'important c'est aujourd'hui de savoir comment partir en vacances sans se déconnecter finalement. C'est vrai qu'il y a peu de personnes aujourd'hui qui arrivent à partir sans vraiment devoir consulter leur mail au moins une fois ou autre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, partir en vacances une semaine et revenir avoir des milliers de mails à lire, ça devient compliqué. Donc voilà, on va voir ensemble comment partir en vacances tout en restant connecté. Même si je vous conseille à tous de vous déconnecter complètement le jour où vous partez. Alors tout d'abord, on va voir qu'est-ce qu'il faut prévoir pour partir en vacances. Donc c'est vrai que la première chose à prévoir, c'est de pouvoir accéder à vos mails depuis l'extérieur. Alors pour les personnes qui font appel à des webmails, il n'y a pas de souci. Par contre, pour les personnes qui utilisent des logiciels de courrier électronique, c'est un peu plus problématique, puisqu'il vous faut penser à passer sur un webmail et à voir surtout si votre fournisseur de mails le propose. En général, maintenant, ils le proposent tous, mais bon, il faut le prévoir avant. Aussi prévoir vos mots de passe, parce que on voit beaucoup de gens qui partent et qui n'ont pas prévu le mot de passe qui est préenregistré dans leur machine, mais qui du coup ne sera pas forcément préenregistré dans leur au cybercafé où ils vont aller. Donc n'oubliez pas de prévoir de noter vos mots de passe quelque part. Ensuite, bien sûr, il faut penser à l'électricité, parce que tous nos beaux joujoux technologiques aujourd'hui sont assez gourmands en électricité. Et il faut bien penser à avoir tous les câbles dont vous avez besoin. Hein, aujourd'hui, on a pratiquement une valise de vêtements et une valise de câbles qu'on emmène. Donc, il faut pas oublier de prévoir tous les câbles nécessaires. Et si vous partez à l'étranger, surtout, n'oubliez pas que les systèmes électriques étrangers sont différents des nôtres et que donc, du coup, il vous faut prévoir les adaptateurs nécessaires. Ensuite, n'oubliez pas de noter quelque part tous les numéros de série de vos appareils électroniques, parce que on n'y pense pas assez, mais le jour où vous le perdez ou que vous le faites voler, ça peut vous être utile. Alors surtout pour votre téléphone portable, puisque aujourd'hui on les désactive à distance, Mais si vous n'avez pas le numéro IMEI qui est marqué sur la batterie du téléphone, vous ne pourrez pas le faire désactiver par votre fournisseur. Donc pensez à noter ces numéros quelque part chez vous avant de partir. Ensuite, il faut ne pas oublier de stocker tout ce qu'on a besoin dans l'ordinateur. Donc n'oubliez pas de prévoir de la place de stockage pour y stocker de la musique, pour enflammer vos soirées de vacances. Et tout ça parce que vous n'aurez pas forcément accès à Internet dans votre hôtel. Si vous êtes obligé d'aller dans un cybercafé pour accéder à Internet, vous ne pourrez pas forcément télécharger les dernières musiques dont vous avez besoin. Donc même si c'est illégal de télécharger, surtout pensez à passer par des plateformes légales. Ensuite, il vous faut préparer tous vos itinéraires. Pour ceux qui utilisent des GPS, hein, sachez que vous pouvez préenregistrer vos itinéraires dedans. Plutôt que d'avoir quelques problèmes pendant votre trajet, n'hésitez pas à préparer ça à l'avance et donc à stocker tous vos itinéraires dans votre GPS qui seront prêts à être utilisés. Et pour ceux qui ont des téléphones portables qui font GPS et qui n'ont pas forcément de logiciel GPS, sachez que Google propose une version Google Maps pour les portables qui marche très bien. Ensuite, pour ceux qui partent, et surtout ceux qui partent en dehors de l'Hexagone, faites attention à bloquer vos données, on en parlait tout à l'heure, du prix des données émises depuis votre téléphone portable. Alors il faut savoir qu'avant, on avait l'avantage si on n'appelait pas, on dépensait pas d'argent depuis son téléphone portable. Aujourd'hui, les smartphones communiquent tout seuls pour se mettre à jour ou relever les mails ou autre. Donc du coup, beaucoup de personnes ont la grande surprise en rentrant de vacances que leur smartphone a communiqué tout seul pendant leurs vacances depuis l'autre bout de la planète et ont quelques surprises sur les factures. Donc faites attention, sachez que normalement sur tous les portables, vous pouvez bloquer l'envoi de données pour ne pas avoir de surprises. Voilà, maintenant que vous êtes paré, qu'est-ce qu'on va mettre en fait dans la valise pour partir? Donc vous avez deux solutions. Alors, emmener votre ordinateur de bureau n'est peut-être pas la bonne solution parce qu'effectivement c'est un peu gros. Mais maintenant vous pouvez emmener votre ordinateur portable ou même encore mieux un notebook qui est encore plus petit ou encore plus petit même une tablette si vous souhaitez pas encombrer vos valises. Vous pouvez emmener en vacances avec vous une tablette qui finalement ne prendra pas plus de place qu'un livre dans une valise et vous rendra pas mal de service. N'oubliez pas aussi, si jamais vous pensez ne pas avoir accès à du Wi-Fi librement ou gratuitement, que vous pouvez demander à votre opérateur pour avoir une clé 3G. Donc qu'est-ce qu'une clé 3G ? C'est tout simplement une clé USB que vous branchez sur votre ordinateur et qui vous permettra d'accéder à Internet en 3G, comme votre téléphone portable le fait. Donc pareil, si vous partez à l'étranger, faites attention quand même à la consommation 3G qui peut vite exploser. Sachez aussi qu'aujourd'hui, certains opérateurs vous permettent d'utiliser les forfaits 3G de vos téléphones portables. Et dans ce cas-là, vous pouvez brancher votre téléphone portable sur votre ordinateur qui, en fait, vous servira de modem. Donc là aussi, encore, faites attention parce que c'est autorisé par certains opérateurs. Mais ça c'est encore interdit par pas mal d'entre eux, même si c'est pas forcément vérifié. Si jamais ils le contrôlent, votre facture aura quelques zéros en plus à la fin du mois. Donc renseignez-vous bien avant de partir. Sachez aussi qu'avant de partir, vous avez sur Internet pas mal de cartes qui recensent les accès Wi-Fi libres ou non. Donc si vous savez déjà où vous partez, n'hésitez pas avant d'aller vous renseigner où est-ce que vous pourrez avoir accès au Wi-Fi le plus proche de votre lieu de vacances. Comme ça vous évitera une fois sur place de perdre du temps et de chercher. Dernier petit point en fait à faire attention quand même, si vous allez dans un cybercafé, c'est bien, mais faites attention aux traces que vous pouvez laisser dans un cybercafé. C'est vrai que chez soi, on a souvent l'habitude d'enregistrer ses mots de passe ou d'enregistrer l'historique. Chose qui n'est pas forcément à faire dans un cybercafé puisque la personne qui passe derrière vous pourra accéder aux données. Donc faites bien attention si vous allez dans un cybercafé d'effacer l'historique que vous pourriez laisser derrière vous. On va voir maintenant rapidement qu'est-ce que vous pouvez emporter dans votre valise. Donc on a vu tout à l'heure qu'on pouvait prendre un ordinateur portable ou une tablette. Sachez aussi qu'au niveau nouvelles technologies, vous avez le moyen de réduire en fait la taille de votre valise, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on emmène beaucoup de choses. Bientôt on va emmener plus d'appareils que de vêtements. Donc voir comment on peut réduire tout ça. Surtout si vous prenez l'avion, ça peut être assez intéressant. Alors, on en parle souvent dans les souris ne mordent pas. Vous avez les liseuses qui vous permettent de consulter les livres. Alors, la liseuse, c'est quoi? C'est un appareil électronique, comme une tablette un peu plus petit, qui vous permet de lire, puisque l'écran n'est pas rétroéclairé, donc c'est moins fatigant pour les yeux. Et ça vous permet d'y stocker pas mal de livres. Donc, si vous êtes très amateur de lecture, plutôt que de remplir votre valise de livres, n'hésitez pas à opter pour une liseuse, hein. Vous en trouvez pour une centaine d'euros à peu près, et après vous avez des livres numériques qui en général sont moins chers que les livres papier, et donc c'est assez intéressant. Pensez aussi à l'appareil photo. Alors vous avez des smartphones aujourd'hui qui font très bien appareil photo. Vous avez aussi des appareils photo qui font caméscope, donc ça peut être pratique d'en emmener qu'un appareil plutôt que d'en emmener plusieurs. Ça permet de vider la valise. On va faire une pause avant de continuer donc sur les vacances et de voir aussi comment occuper ses enfants pendant ses vacances grâce à la nouvelle technologie. On s'écoute une musique, à tout de suite en CFM.
In my head, it's another key. Let me alone, get out of there. I'm sure I can control myself. Goodbye, my friend, I don't need you. Goodbye, my friend, you're on the list. Oh, let me
C'était Isia dans Les souris ne mordent pas, l'émission qui vous parle de nouvelles technologies en CFM. Et donc, on va continuer notre dossier sur les vacances et voir comment occuper aussi vos enfants pendant les vacances. Parce que c'est vrai que souvent, ça peut être un problème, surtout s'il fait moche. On sait jamais à quel temps il va faire quand on part en vacances. On espère qu'il va faire beau. Mais bon, il peut pleuvoir. Et pensez à emmener, parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de consoles de jeux portatives. Ou alors pour ceux qui ont des smartphones ou pourquoi pas des tablettes, pensez à les équiper de jeux. Parce qu'effectivement, le jour où il pleut, ça peut quand même être assez pratique de refiler la tablette à votre enfant et qu'il vous laisse un peu tranquille pour que vous puissiez lire sur la liseuse que vous aurez également emportée. Alors, c'est bien de partir, c'est bien de rester connecté, mais on va voir ensemble quelques adresses qui peuvent être intéressantes si vous partez. Alors, vous avez un site internet notamment qui s'appelle Troc des Trains et qui vous permet, comme son nom l'indique, d'échanger des billets de train. Donc, c'est surtout pour les personnes qui ne peuvent plus partir à la dernière minute et qui ne peuvent pas se faire rembourser leurs billets. Et ça peut vous permettre à vous, pourquoi pas, de trouver aussi des billets pas chers pour partir. Si vous aimez partir à l'aventure à la dernière minute, ça peut être assez intéressant. Alors bien sûr, on va parler météo, hein, puisqu'on parle de tout à l'heure du fait qu'il fasse beau, qu'il fasse soleil ou pas. Et donc vous connaissez tous, bien sûr, Météo France. On le présente plus. Donc Météo France a un site internet assez pratique. Sachez aussi que Météo France peut vous donner la météo marine, qui peut être assez intéressant si vous partez en vacances. Tout ça sur leur site internet et gratuitement, ce qui est assez intéressant. Vous avez aussi pas mal de sites internet comme Météo Consult ou TV5 qui vous donnent de la météo. Et vous avez pas mal d'applications gratuites pour les smartphones. Donc si jamais vous avez un smartphone, n'hésitez pas à vous équiper d'une application météo. Ça peut être assez pratique quand on est en vacances. Parce qu'on peut faire pas mal de kilomètres et le temps change sur pas mal de kilomètres, donc d'avoir ça sous la main, ça peut aider. Alors si vous partez à l'étranger, n'hésitez pas aussi à prendre une application de traduction avec vous. Hein, c'est fini maintenant de prendre le petit dictionnaire dans la poche. Les smartphones nous aident pour ça. Et si jamais vous n'avez pas d'application, n'hésitez pas à utiliser le traducteur de Google qui s'appelle translate.google.fr. Et qui aujourd'hui aussi a l'avantage d'enregistrer la voix. Donc ça vous permet d'enregistrer une voix et de récupérer ce qui est dit et de le traduire. Donc c'est vrai que c'est assez pratique. On va rapidement parler aussi de cartes. Alors on va citer comme ça rapidement quelques sites. Hein, dont vous avez Google Maps qui peut vous permettre de préparer votre voyage avec les cartes, mais aussi les images en relief et les photos des lieux. Donc ça peut vous permettre de savoir où vous allez, de repérer les lieux. Vous avez le site internet du Routard ou du Lonely Planet qui sont des guides touristiques et leurs sites internet sont assez bien faits. N'hésitez pas aussi à visiter le site de Via Michelin ou du Petit Futé qui sont assez pratiques. Et vous avez Cityvox qui vous parle aussi des différents lieux, des différents restaurants et tout ça, ça va permettre de se faire une idée. Pour ne pas avoir de surprises en vacances. On peut continuer. Alors, je vais vous parler, pour ne pas vous disputer avec vos amis, d'une petite application assez sympa qui s'appelle Compte de Vacances et qui marche sur iPhone, donc pour les possesseurs d'iPhone, et qui vous permet tout au long des vacances de faire les comptes, en gros, pour ne pas vous prendre la tête le jour de partir pour savoir qui a payé quoi et qui doit payer qui. Donc cette petite application vous permettra de garder les comptes à jour et d'éviter les ennuis. Dernière petite application, on va parler de Kayak qui vous permet de vous tenir informé des horaires d'avion et de ne pas louper l'avion. Voilà, donc ça vous permet d'avoir des petits rappels, notamment au niveau des horaires et de savoir si votre avion est à l'heure ou pas. Donc voilà, une application qui peut vous être utile si vous partez en avion. Voilà, c'était Les souris ne mordent pas sur le thème des vacances avec la nouvelle technologie. Donc vous pouvez maintenant partir jusqu'à lundi prochain, hein, parce qu'on se retrouve lundi prochain quand même. N'hésitez pas à aller sur le site de CFM Radio si vous êtes en vacances pour réécouter l'émission. Si vous l'avez loupé, vous pouvez n'importe où dans le monde l'écouter sur Internet. Bonne semaine à vous et à la semaine prochaine en CFM.